Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mercredi 29 Azar, 1402 du calendrier iranien, 20 décembre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré le chef du bureau politique du Hamas à Doha. La République islamique d'Iran condamne avec véhémence le verdict d'un tribunal suédois contre un ressortissant iranien, Hamid Nouri. La frontière nord de la Palestine occupée, criblée de missiles par le Hezbollah. Et 71% de la population de Gaza souffre de graves niveaux de faim. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné avec véhémence le verdict d'un tribunal suédois contre Hamid Nouri, un ancien responsable judiciaire iranien, illégalement incarcéré en Suède, le qualifiant de fondamentalement inacceptable. La Cour d'appel de Stockholm a confirmé, mardi 19 décembre, la condamnation à perpétuité controversée de Nouri, 62 ans, arrêté en 2019 sur la base d'allégations non fondées de violation des droits de l'homme et pour ce qui aurait été son rôle présumé dans la mort de prisonniers en Iran dans les années 1980. La République islamique d'Iran considère le verdict du tribunal de première instance et de la Cour d'appel concernant le citoyen iranien Hamid Nouri comme une décision fondamentalement inacceptable et le condamne fermement, a déclaré Nasser Kanani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Avec ce verdict, la Suède s'est rangée aux côtés des groupes terroristes anti-iraniens et a mis en danger les relations entre Téhéran et Stockholm, a-t-il ajouté. Les médias israéliens ont fait état mardi 19 décembre du tir de 18 missiles par la résistance islamique du Liban vers Kiryat Shmona, les villes de la Haute-Galilée, au nord de la Palestine occupée. Le correspondant de la chaîne israélienne Kan a rapporté depuis le nord des territoires occupés qu'un puissant barrage de missiles avait été tiré il y a 3 heures, le qualifiant de salve de missile la plus puissante jamais vue dans cette région. Les 18 missiles visaient la ville de Kiryat et celle de la Haute-Galilée. Tout au long de la journée, les sirènes d'alarme ont retenti dans les villes de la vallée de Houla, de la région de la Haute-Galilée et de Safad en raison de l'infiltration de drones, et la chaîne libanaise Al-Mayadin a aussi rapporté qu'un puissant barrage de roquettes avait été tiré vers la Haute-Galilée, déclenchant le dôme de fer d'Israël. De son côté, le Hezbollah libanais a précisé qu'en représailles à l'agression de l'ennemi israélien contre les civils, notamment Hossein Ali Baraka, ses combattants ont bombardé à 21h45 la colonie de Yifta, faisant plusieurs blessés côté israélien. L'Observatoire euroméditerranéen des droits de l'homme, basé à Genève, a découvert que 71% des habitants de la bande de Gaza souffrent d'une faim extrême en raison de la guerre dévastatrice menée par Israël contre le territoire palestinien. L'Observatoire euroméditerranéen des droits de l'homme a publié ce chiffre mardi après avoir mené une étude analytique sur un échantillon de 1200 personnes à Gaza. Quelque 98% des participants à l'étude ont déclaré qu'ils mangeaient des quantités insuffisantes de nourriture et 64% ont admis manger de l'herbe, des fruits, des aliments insuffisamment cuits et périmés pour satisfaire leur faim. Le blocus israélien, ajouté à l'agression génocidaire, a plongé la bande de Gaza dans une catastrophe humanitaire où le manque d'accès à l'assainissement et à l'eau potable a accru la prévalence des maladies d'origine hydrique. Et enfin, le porte-parole du mouvement yéménite Ansar Allah a averti qu'une éventuelle opération des États-Unis et des pays occidentaux contre le Yémen se transformerait en une guerre régionale et internationale dont les effets catastrophiques sont inimaginables. L'alliance américano-israélienne n'a aucun effet sur les opérations des forces armées yéménites contre les navires à destination d'Israël en mer Rouge, a déclaré Mohammad Abdesalam dans un rapport publié ce mardi 19 décembre sur le site Al-Masira. Il a affirmé que les opérations de l'armée yéménite ne ciblent que les navires à destination du régime sioniste avant d'expliquer que la propagande américaine de faire arrêter la navigation dans la mer Rouge et la mer d'Oman tend à faire pression sur d'autres pays pour qu'ils participent à la coalition soutenant Israël, déclarant que les attaques du mouvement yéménite contre les navires à destination d'Israël se poursuivront. Il a ajouté que depuis le premier jour de l'opération de la résistance yéménite en mer Rouge, des frégates britanniques, françaises et américaines tentaient d'abattre des missiles et des drones yéménites. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, est arrivé mardi soir, 19 décembre, dans la capitale qatari, Doha, pour une visite axée sur les dernières évolutions de la guerre menée par le régime sioniste contre Gaza et des moyens censés empêcher la propagation de la crise dans la région. Le chef de la diplomatie iranienne était arrivé à Doha pour tenir des réunions avec des responsables qataris et examiner les derniers développements de la situation en Palestine et l'agression du régime israélien contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Dès son arrivée au Qatar, le ministre iranien des Affaires étrangères, a rencontré Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas. Lors d'une rencontre avec Amir Abdullahian, Ismail Haniyeh a déclaré que la résistance restait toujours campée sur sa position. Il ne fait aucun doute que l'agression militaire du régime sioniste contre la population de Gaza est sans précédent et qu'on est témoin des attaques d'envergure aérienne, maritime et terrestre de ce régime contre les habitants de Gaza, a indiqué le chef du bureau politique du Hamas. Le régime sioniste et ses alliés s'imaginaient en finir avec la résistance et la contraindre à hisser le drapeau blanc. Mais après 75 jours de crimes et de massacres et de politiques de terre brûlées, la résistance reste inébranlable et stable et elle a infligé de lourds dégâts au régime sioniste, a-t-il ajouté. Le chef du bureau politique du Hamas a poursuivi. La nation palestinienne a fait preuve d'une résistance spectaculaire, bien qu'il en ait payé un lourd tribut. Des dizaines de milliers d'habitants de Gaza sont tombés en martyrs ou ont été blessés, pour la plupart des femmes et des enfants. Et des centaines de milliers de maisons ont été détruites à Gaza, et ce régime ne permet pas que l'aide humanitaire s'achemine vers le nord de la bande de Gaza. Mais malgré tous ces problèmes, la nation palestinienne continue de résister et de se tenir aux côtés de la résistance afin que nous puissions en finir avec le régime sioniste. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdullahian, a pour sa part souligné que la République islamique d'Iran poursuivrait ses efforts diplomatiques pour soutenir la nation palestinienne opprimée, mais puissante et patiente dans le but de mettre fin à l'agression criminelle et au siège d'Israël sur Gaza et de contrer les projets politiques pro-israéliens. Aujourd'hui, personne ne doute que la résistance et la nation palestinienne ont prouvé leur puissance et leur détermination face à la machine à tuer du régime sioniste, malgré beaucoup de douleurs et de souffrances et le sacrifice de plus de 20 000 martyrs au cours des 75 derniers jours, a-t-il indiqué. Hossein Amir Abdullahian a également condamné le soutien total et sans faille des États-Unis au régime israélien dans la guerre à Gaza, exhortant Washington à cesser dès que possible le parrainage de la stratégie militaire insensée du régime de Tel Aviv. Évoquant la perplexité stratégique des États-Unis face à la crise à Gaza, Amir Abdullahian a déclaré « Tous ceux qui sont à la Maison-Blanche croient que le régime sioniste doit être victorieux sur le terrain. Mais aujourd'hui, ils cherchent à sortir dignement de cette guerre par un moyen politique et à sauver le régime israélien d'un échec stratégique compte tenu des réalités sur le terrain et de la résilience du peuple palestinien. » Le chef du bureau politique du Hamas a remercié les actions du chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdullahian. Il s'agit de la quatrième visite du ministre iranien des Affaires étrangères à Doha pendant cette guerre. Lors de la réunion de ce soir, nous avons discuté des dernières évolutions de la guerre menée par le régime sioniste contre la population de Gaza, des actions humanitaires et des mesures politiques à prendre, a-t-il expliqué. Amir Abdullahian a également évoqué les derniers contacts entre la République islamique d'Iran et d'autres pays concernant la question palestinienne. Ce sont des réunions importantes en soutien à Gaza et à la Palestine, a-t-il conclu.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet du débat est tout simplement génocide en ligne. En effet, chaque semaine, on pense que le pire a été fait, mais finalement, le pire arrive chaque semaine, de pire en pire. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine, malheureusement, où des enfants ont été tirés à bout portant, où une maternité a été touchée. C'est malheureusement l'actualité que vivent les Palestiniens à l'heure actuelle. Je vous propose tout d'abord donc de regarder notre reportage que nous avons préparé à cet effet pour par la suite faire venir nos invités et experts. Tout de suite, notre reportage.
La ministre palestinienne de la Santé, May Al-Kaila, réclamait une enquête internationale sur les informations selon lesquelles les forces israéliennes ont enterré vivants dans la cour de l'hôpital Kamal Adwan des dizaines de patients et de déplacés palestiniens. Selon des médias palestiniens, Al-Qaïda a fait ce commentaire dans un communiqué de presse samedi 16 décembre. Il a déclaré que des informations recueillies auprès de témoins oculaires, d'équipes médicales et de médias indiquent que les forces du régime israélien ont enterré des Palestiniens vivant dans la cour de cet hôpital situé au nord de Gaza. Certains d'entre eux ont été vus vivants avant d'être écrasés par des chars israéliens, a ajouté la ministre. Al-Qaïda a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures sérieuses pour découvrir les détails de cette tragédie et à ne pas ignorer ou garder le silence sur les données faisant état de crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. Ces remarques font suite à des images diffusées samedi par la chaîne de télévision Al Jazeera montrant des tentes et des effets personnels de Palestiniens écrasés dans la cour de l'hôpital Kamal Adwan à Beit Lahia. Des dizaines de personnes déplacées, malades et blessées ont été enterrées vivantes. Les bulldozers de l'occupation israélienne ont piétiné les tentes des personnes déplacées dans la cour de l'hôpital et les ont brutalement écrasées, a déclaré le journaliste palestinien Anas Al-Sharif dans un message sur X. Le Conseil pour la relation islam-amérique a demandé une enquête de l'ONU sur les informations selon lesquelles les forces israéliennes à Gaza auraient détruit au bulldozer des tentes médicales avec des Palestiniens blessés à l'intérieur, enterrant des civils vivants. Le groupe de défense basé aux États-Unis affirme que l'incident a eu lieu samedi. À l'hôpital Kamal Adwan, l'Observatoire Euro-Méditerranéen des droits de l'homme, Euromed Droit, basé à Genève, a également appelé à une enquête internationale sur cet acte ignoble. Euromed Droit a déclaré dans un communiqué avoir reçu des témoignages et des informations de professionnels de la santé et des médias affirmant que des bulldozers de l'armée israélienne avaient enterré vivants des Palestiniens dans la cour de l'hôpital samedi matin. Oromed Droit a ajouté que ses équipes documentaient ce qui s'était passé à l'hôpital, soulignant la nécessité d'une enquête internationale sur toutes les horribles violations israéliennes commises contre les patients, les civils déplacés et le personnel médical de l'hôpital au cours des derniers jours.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Tout de suite, nous allons venir nos invités. Nous commençons par Jean-Maxime Cornet qui suit la situation de Gaza depuis le 7 octobre avec nous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Cornet, ravi de vous avoir en tant qu'invité aujourd'hui, expert.
Bonjour et merci pour votre invitation.
Alors nos deux invités, Monsieur Bernard Cornu, militant, expert également des droits humains et humanitaires. Bonjour Monsieur Cornu, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous et à Monsieur Corneille.
Alors, Monsieur Cornet, nous avons beaucoup débattu ici sur Plateau de Presse TV concernant donc l'extrémisme du régime sioniste. Nous avons beaucoup parlé du fait que l'origine même de ce groupement sioniste, avant même que ce soit ou que ce soit construit comme un État par l'Occident, on fait penser que cet extrémisme donc d'aujourd'hui n'est pas étonnant, si finalement le résultat de ces années d'erreur. Mais Monsieur Corneille, depuis le 7 octobre déjà, on se disait chaque semaine c'est un génocide, c'est grave. Mais chaque semaine l'horreur est de plus en plus importante. Cette semaine et ce week-end en particulier, là où l'État sioniste, enfin l'État, l'entité sioniste a mis fin au réseau Internet afin qu'aucune image ne circule, a fait en sorte de pouvoir tout simplement tirer, viser un hôpital, une maternité, mais également une école où se trouvaient des enfants. Ils ont pris et kidnappé les hommes et ont tiré sur ce qui restait. Il n'y a pas de mots assez forts, je pense, pour décrire cette horreur, sachant qu'on parle d'enfants, on parle d'innocents. Ils n'ont ni parti politique, ni couleur, ni rien. Ce sont juste des enfants nés sur un territoire recherché par cette entité sioniste. Monsieur Corneille, vers où on va dans ces situations-là? On voit que finalement la France commence à condamner, à grincer des dents, mais est-ce que c'est suffisamment fort? Est-ce qu'on peut s'attendre finalement avec toutes ces preuves qui sont en train de circuler depuis donc lundi matin et également depuis dimanche sur ce qui s'est passé samedi? On pourrait espérer enfin une réaction internationale beaucoup plus forte.
Je vais prendre quatre points ici qui me semblent importants. Déjà, en essayant, on va dire, d'être lucide et d'être tout de même juste. Le contrôle des images en temps de guerre est une nécessité de guerre, en tout cas historiquement. Le problème est que, évidemment, Israël abuse de cette nécessité au nom d'une idée très importante que j'aimerais développer ici sur votre antenne. C'est le détournement de l'idée très française et très juste, initialement juste, de la contre-insurrection. Qu'on me comprenne bien là-dessus, la contre-insurrection, c'est la seule façon de lutter contre du terrorisme qui prend en otage les populations. Ça, c'est l'idée initiale lorsque vous avez un vrai terrorisme qui prend en otage une population face à une armée régulière, que ce soit l'armée d'un État ou, par exemple, dans la configuration plus difficile de la décolonisation, par exemple, pour la France, vous aviez des terroristes importés. Le bon exemple, la bonne comparaison serait la Syrie. Entre l'Algérie, la guerre d'Algérie et la Syrie. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous aviez des terroristes importés par l'étranger et vous aviez un État, ou bien l'État syrien, ou bien l'État français maladroitement uni avec l'Algérie pour, en tout cas, un État qui réagissait contre du terrorisme. Et la logique terroriste, elle avait été comprise à l'époque par Roger Vibault, un grand homme du renseignement français, qui disait que la logique du terrorisme avait une racine, notamment dans l'Antiquité juive, consistant à prendre en otage les populations et à faire des coups extrêmement disgracieux contre un occupant qui allait se retourner contre la population afin que la population prenne le parti des terroristes. Ça, c'est la sale logique fanatique qui a donné les zélotes et qui a donné la destruction de la Judée dans l'Antiquité. Si vous faites la comparaison avec ce qu'il s'est passé en Syrie et en Algérie et à présent en Israël, vous aviez une idée légitime, initialement de contre-insurrection, qui consistait à séparer les terroristes de la population civile de façon à ne cibler que les terroristes intelligemment pour épargner la population civile. Ça, c'était l'idée initiale de la véritable contre-insurrection à la française. Sauf qu'une idée qui est très peu comprise, c'est que cette véritable idée de la contre-insurrection à la française, celle qui a marché en Algérie justement, en ciblant intelligemment uniquement les terroristes et en leur donnant toujours des chances de se reconvertir, eh bien, cette idée a été détournée et inversée par les anglo-américano-israéliens. Sur plusieurs théâtres d'opération, notamment l'Amérique du Sud, l'Irak et aujourd'hui clairement Israël, la bande de Gaza. C'est-à-dire qu'il y a eu une dynamique de terrorisation dans les deux sens de la population palestinienne par Israël, c'est-à-dire d'un côté le fait de contraindre la population au terrorisme en la poussant au désespoir, d'une part, et d'autre part le fait de transformer chaque Palestinien en terroriste en puissance, ce qui en réalité est une légitimation d'un épouvantable fanatisme historiquement juif qui date de l'Antiquité, consistant globalement à haïr tout ce qui n'est pas juif. Et c'est un véritable problème dont le judaïsme aujourd'hui n'est pas encore sorti et que nous voyons à l'œuvre là, à Gaza. Voilà pour mon premier point. C'est un point très important que cette notion de détournement de la contre-insurrection à la française.
Mais Monsieur Corneille, bien que je sois parfaitement d'accord avec vous sur la théorie, à l'heure actuelle, nous avons pratiquement des vidéos à minute après minute, extrêmement en direct, pratiquement, de ce qui se passe là-bas. C'est quand même extrêmement différent des autres guerres.
Bien sûr.
Hein, parce que
ce n'est pas de
d'habitude,
la
on a des images.
contre-insurrection.
Bien par la
C'est vraiment
suite,
du
par exemple,
génocide.
Mariupol, on n'a pas eu tout de suite les images. Même Mariupol, je parle d'un conflit récent, donc l'année dernière, hein, on ne parle de pas grand-chose, finalement, 12 mois. Là, on a quand même des vidéos à la minute qui sont diffusées extrêmement rapidement sur tous les réseaux sociaux dans toutes les langues. On rappelle que pas seulement la langue française ou anglaise est utilisée pour diffuser ces images. On sait également, on l'a déjà débattu également dans ce débat, que les différents gouvernements du monde entier, dû à une crise économique mondiale, on va donner pour la raison, par exemple, les crédits américains. Il y a plein de raisons qui pourraient expliquer la crise économique mondiale dans tous les cas de figure. Fait en sorte que beaucoup de pays sont instables et il y a ces peuples à qui on leur a parlé de démocratie, de libéralisme depuis plus de 30 ans. Je fais partie de cette génération-là, vous également. On nous a dit que c'était la meilleure forme de démocratie de vie au monde. On a rabâché dans les films qui ont été des véritables réseaux d'influence importants chez les jeunes générations, depuis en tout cas les années 90. Et là, on arrive à ce genre d'image, en face à face, où les gens, chaque jour, se réveillent, ou c'est la nuit, parce que ça dépend de quelle heure de quelle heure vous faites partie, là, de quelle GMT vous faites partie, mais c'est quand même extrêmement dur. Je veux dire, là, on est en train de
Bien
parler de
sûr.
corps renversés par des tanks, qu'on parle de gens vivants qui ont subi cette
Bien sûr.
atrocité physique. On parle également d'enfants cherchant à être en refuge dans une école qui était également sous protection humanitaire. On voit des humanitaires qui étaient également en Ukraine parler de la Russie et de ce qui s'est passé en Mariupol, être remis en question parce qu'ils sont partis en Palestine, parce qu'on remettait en question les humanitaires palestiniens parce qu'ils étaient palestiniens. Donc ils sont
Bien
partis
sûr.
eux-mêmes se déplacer pour dire on est là et on voit. Monsieur Cornu, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à la théorie de Monsieur Corneille qui est quand même extrêmement difficile à supporter quand on suit tous les jours les images et il y en a beaucoup, on est des millions de personnes à l'heure actuelle à suivre ce qui se passe en Palestine. On n'est pas, c'est pratiquement tout le globe hein, qui suit, tous ceux qui ont Internet à l'heure actuelle, qu'ils soient en Chine, en Asie du Sud ou aux États-Unis ou en Afrique, tout le monde suit les images qui se passent en Palestine actuellement.
Oui, le rappel de l'histoire, de la théorie est utile parce que, effectivement, dans la population d'Israël, il y a beaucoup de gens qui passent des heures et des heures chaque jour à lire les textes anciens. Et donc, ils ont le cerveau qui est complètement conditionné par, disons, la logique meurtrière, la logique de vengeance qui est dans ces textes, dans beaucoup de textes de la Torah. Ça explique le comportement de certains. Et en plus, en Israël, il y a une censure sur les images. La population israélienne, et donc les soldats, voient très peu les images des destructions qui sont faites par l'armée israélienne. Et pour revenir à des périodes plus tôt, moi j'ai même vu des choses semblables par l'armée israélienne lors du siège de Beyrouth en 1982, puisque ça a été filmé par un cinéaste libanais que je connais d'ailleurs. Où on voit un char israélien écraser toute une voiture avec la famille à l'intérieur. Et je sais que par le consul de France, il a vu parfois des destructions de maisons par des missiles israéliens avec la population palestinienne à l'intérieur. Et chacun connaît aussi, puisque ces images ont été souvent vues et rappelées, que les Israéliens ont écrasé avec un char, avec un bulldozer plutôt. Une militante Rachel Correa, si mes souvenirs sont bons, il y a une bonne dizaine d'années, parce qu'elle protestait contre les interventions de l'armée israélienne. Mais on sait aussi qu'en 1967, ça a été révélé beaucoup plus tard, l'armée israélienne a enterré des vivants, des soldats égyptiens dans les sables du Sinaï. Et l'armée américaine aussi, quand elle a pourchasser l'armée irakienne à son sortir de Koweït en 1991, au mois de février, a aussi lancé des bombes terribles, des bombes à neutrons. Ceci a été témoigné par l'ancien procureur général des Nations Unies, qui a été une des rares personnalités allant sur place. Et elle a aussi enterré des Irakiens dans leur tranchée au sud de l'Irak, dans la région de Zoué. Voilà, donc ces actes terribles des armées complètement sans empathie envers leurs victimes, parce qu'ils eux-mêmes n'ont pas les images de leurs victimes, ils ne ressentent rien et ils obéissent aux ordres ou ils même les dépassent. Et c'est vrai que même pour un soldat, il y a quand même forcément des perceptions difficiles et ils sont quand même très perturbés. Et on sait bien que les soldats américains, après la guerre d'Irak ou après du Vietnam, des milliers sont en traitement psychiatrique parce qu'ils ont des problèmes psychologiques graves à cause des meurtres qu'ils commettent, des actes qu'ils commettent sous les ordres. Donc cette nouvelle guerre terrible doit s'arrêter. Aujourd'hui, il y a une résolution des Nations Unies. Sera-t-elle votée par l'Amérique? C'est-à-dire, l'Amérique posera-t-elle son veto? Votera-t-elle positivement? On ne le sait pas. Le Royaume-Britannique aussi votera-t-il positivement? Il est temps que cette guerre s'arrête et qu'on puisse rénover, modifier encore le droit international, sachant que maintenant les violations sont quotidiennes et qu'on les voit, alors qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, pas autant de photographes qui pouvaient, même de civils, qui pouvaient transmettre des images instantanément vers les relais de presse. Et donc les choses se sachent maintenant. Et donc, mais effectivement, j'ai pu constater en France que peu de gens connaissent. J'ai vu hier un ami qui a été journaliste dans une rédaction importante d'un journal. Il ne s'intéressait pas beaucoup à Gaza, disant que les choses maintenant ont été vues, sont passives et qu'on ne peut rien faire. Cette impuissance est très dommageable. Il faut au contraire montrer ces images, soulever la population pour qu'elle fasse pression sur les gouvernements. On voit qu'un employé français est mort il y a 2 jours. Ça remue un peu la ministre française qui se met à demander l'arrêt, la trêve, une trêve durable et immédiate, c'est-à-dire en fait un cessez-le-feu. Donc pour la première fois, on le dit en haut niveau. Mais il faut voir qu'à côté, il y a eu plus de 20 000 morts palestiniens, principalement des civils. Donc les images sont importantes. Le soulèvement des populations est important pour remuer nos gouvernements occidentaux, ce que j'appelle moi le club des anciens empires coloniaux, des gens qui ont très peu de sympathie pour les pays du Sud, parce qu'il y a encore dans notre histoire des légendes ou des perceptions de nos guerres qui sont en fait insuffisamment pratiques et qui ne permettent pas aux gens d'avoir une vision de l'ensemble du monde et de réaction humanitaire.
Merci Monsieur Cornu. Monsieur Corneille, donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'une pression du peuple, des peuples sur leur gouvernement pourrait pousser finalement les gouvernements à réellement réagir et non pas juste à indiquer que c'est grave ce qui se passe et qu'il faudrait que ça s'arrête, comme par exemple Madame Cantona ou par exemple tout simplement le fait qu'une société, la plus grosse compagnie portuaire chinoise ait décidé de ne plus envoyer en mer Rouge 2 bateaux pour l'entité sioniste. Est-ce qu'on peut s'attendre finalement enfin à une réaction en chaîne?
Alors, la réaction populaire, fondamentalement, les dirigeants occidentaux n'en auront de toute façon rien à faire, sauf jusqu'à un certain seuil de douleur. Mais là, il vous faut bien comprendre quelque chose. J'ai écrit récemment un article là-dessus, dans Géopolitique profonde. En fait, la démocratie, la soi-disant démocratie, est un mensonge depuis 5 siècles. C'est un mensonge qui a servi dans des changements de régime contre l'Occident, avant de se servir de l'Occident pour, globalement, mettre le reste du monde sous une puissante prédation économique qui n'a rien à voir avec la volonté des peuples occidentaux. Tout ça est un mensonge, je l'ai articulé dans un article qu'il serait bon d'ailleurs de traduire éventuellement en Iran, mais c'est juste pour replacer les idées dans l'ordre. Le peuple, globalement, les dirigeants occidentaux sont tellement détournés par des gens qui agissent contre le peuple que fondamentalement le peuple n'a pas vraiment voix au chapitre. Peut-être que passé un certain stade, il pourrait y avoir des prises de conscience, mais il va se passer au contraire, je vous prédis la chose suivante. Plutôt qu'une prise de conscience du bas vers le haut, il y aura une horizontalisation des luttes qui est la stratégie actuelle qui se passe aujourd'hui en France depuis le 7 octobre. Face à une menace de prise de conscience au sujet de la situation de Gaza, face à une menace d'union entre, au sein du peuple français, entre le peuple français, disons indigène, et le peuple immigré largement musulman ou pro-palestinien, il y avait une convergence entre ces deux composantes du peuple français aujourd'hui. Or, il est beaucoup plus facile de dresser ces deux composantes l'une contre l'autre, parce que cela fait des années que les immigrés globalement se livrent à des exactions anti-françaises, et maintenant, les médias qui sont largement contrôlés par les Israéliens en France feignent de découvrir cette réalité pour dresser donc les Français indigènes et les Français immigrés à sympathie palestinienne les uns contre les autres. Ceci en lieu et place d'une prise de conscience verticale contre la volonté des gouvernements français lourdement pro-israéliens aujourd'hui, ce qui correspond à un détournement de la France, à un détournement de la diplomatie française. Voilà pour la réponse à votre question. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'un détournement de la vieille contre-insurrection française, c'est un détournement vers un génocide appuyé sur un épouvantable fanatisme. C'est-à-dire que là, au risque de ne m'être pas bien fait comprendre tout à l'heure, il faut clarifier cette idée-là. Le détournement de cette contre-insurrection s'est fait contre le peuple palestinien. Ça n'a rien à voir avec la vraie contre-insurrection française. Par contre, c'est la rhétorique des agents d'influence israéliens qui vous expliquent que, oui, Israël combat contre le terrorisme. Non, non, Israël crée le terrorisme sciemment. C'est une logique d'Abu Ghraib, c'est-à-dire que vous nourrissez artificiellement le terrorisme quand vous avez la main aussi lourde, et c'est l'exact inverse de la bonne compréhension de la contre-insurrection, c'est-à-dire la façon dont il faut lutter contre le terrorisme qui est bien souvent importé par nos amis anglo-américano-israéliens. La France a été le premier État à le dénoncer historiquement, je l'ai déjà dit sur votre antenne, dès 1930. Maintenant, regardons d'autres asymétries quand on parle du kidnapping d'enfants. On a parlé du kidnapping d'enfants ukrainiens par les méchants russes, et là, par contre, quand il s'agit de kidnapper des enfants palestiniens, il n'y a aucun problème. Les chars également, regardez, en Ukraine, on a eu aussi des chars ukrainiens qui ont écrasé des Russes. Comparé à présent ce que disait le colonel Hogard, un grand soldat de France, qu'est-ce qui fait la qualité du soldat français? La discipline de feu et l'humanité. C'est la raison pour laquelle la France s'est faite aimer dans le monde entier et qu'aujourd'hui, Israël détourne lourdement la France. Les anglo-américano-israéliens détournent lourdement la France pour faire oublier tout cela. Mais
d'ailleurs,
il faut bien revenir de ces
mensonges-là.
Excusez-moi
de vous interrompre. D'ailleurs, il y a un député français qui a réclamé à ce que les soldats franco-israéliens soient jugés pour crimes de guerre, étant donné qu'apparemment, il y a plus de 4000 soldats de l'entité sioniste
oui,
qui serait franco-israélien. Et donc, il y a des députés qui commencent à dire, et vu, au vu des preuves de génocide, ces soldats, déjà, c'est illégal hein, par le droit français, d'après ce que j'ai pu lire. Il est tout à fait illégal de servir un pays qui n'est pas le sien, ou alors on est déchu de sa sanité. C'est une
oui.
raison de perdre sa sanité française. Et là, il s'avère qu'il y ait des députés. Est-ce que vous pensez que ça, par exemple, ce sont ce genre d'actions? Outre le fait de pouvoir s'en prendre directement à l'entité sioniste pour des raisons, comme vous l'avez dit, l'influence sionisme, mais éventuellement, dans ce cas-là, de s'en prendre indirectement à cette entité en s'en prenant aux soldats franco-israéliens.
Oui, ceci est par contre remplacé par une agitprop, notamment du député Meir Habib, bien plus israélien que français, qui se livre à une surenchère d'agitprop. Je rajoute également autre chose, j'ai moi-même déjà été menacé par des soldats français juifs, qui étaient bien plus israéliens que français, qui m'ont approché justement par Facebook ou autre, après des reportages sur votre antenne, en disant « Oh là là !» en laissant entendre des menaces. Donc vous voyez le problème, tout est légal de toute façon avec Israël, mais quand on voit, quand on suit les agents d'influence israéliens en France, nous avons réellement une logique d'agitprop qui remplace tout ça, c'est-à-dire que ces gens-là font une surenchère. Aujourd'hui, on avait Meir Habib qui ce matin se plaignait du fait qu'un notable du Hamas avait été pris avec une valise avec 5 millions de shekels, tandis qu'il martyrise et affame le pauvre peuple israélien. Oui, il ne dit pas qu'Israël a facilité le financement du Hamas par le Qatar avec protection israélienne. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de l'agitprop d'ambiance qui sert à inverser la réalité et à faire passer Israël pour la victime. Le problème est qu'Israël nourrit le terrorisme, j'insiste bien sur ce point. Et pire que ça, c'est une logique mondialiste qui a besoin de ce terrorisme artificiel. Depuis 5 siècles, je l'ai écrit dans l'article dont j'ai parlé. En revanche,
Merci.
Un dernier point.
Ce sur sera la conclusion, Monsieur Cornu.
Monsieur Cornu parlait du Liban, excusez-moi.
Oh oui, malheureusement, en fait, ce débat-là, il pourrait vraiment durer très longtemps parce qu'on parle de civils, on parle d'innocents, on parle d'une injustice tout simplement de 75 ans. Monsieur Cornu, Monsieur Bernard Cornu, je vous remercie. Toujours militant pour la cause humaine. Merci de votre participation dans ce débat et avec nous sur la chaîne Presse TV. Monsieur Corneille, de même, depuis le 7 octobre, vous êtes en train de débattre avec nous et essayer de voir plus clair sur ce génocide, sur cette atrocité, encore une fois, de l'histoire humaine. Je vous remercie. Au revoir. We'll be right back.
Ici le Moyen-Orient.
Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. L'appareil diplomatique iranien appelle Islamabad à renforcer la sécurité de ses frontières avec l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères exhorte le Pakistan à assurer la sécurité de sa frontière avec l'Iran après un attentat terroriste à Rask dans la province iranienne de Sistan et Baloutchistan. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, appelle à la promotion de la coopération bilatérale avec le Pakistan afin de mettre fin aux activités terroristes et d'assurer la sécurité le long de la frontière entre les deux pays. Amir Abdollahian a fait ses déclarations lundi 18 décembre lors d'une conversation téléphonique avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères Jalil Abbas Jilani à la suite d'une attaque terroriste survenue dans le sud-est de l'Iran. 11 membres des forces de police ont été tués et 7 autres blessés dans cet attentat. L'attaque a visé vendredi 15 décembre le quartier général de la police du département de Rask dans la province de Sistan et Baloutchistan. Le groupe terroriste Jaish al-Adl, basé au Pakistan, a revendiqué l'attentat. Des unités de missiles, de drones et d'artillerie ont été déployées le long des zones frontalières du nord-est de l'Iran pour apporter une réponse rapide et précise à toute éventuelle menace. Le commandant des forces terrestres de l'armée iranienne, le général de brigade Kiyumars Haidari, a déclaré lundi 18 décembre que ses forces surveillaient de près l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays. Elles conçoivent et mettent en œuvre un plan axé sur les points vides où il leur manque des éléments. La force terrestre évalue le plan, la quantité des missiles, des drones et le nombre des forces de manœuvre qui seront déployées aux frontières dans le but de donner une réponse ferme et décisive aux menaces, a-t-il assuré. Le commandant adjoint de l'armée de l'air iranienne a déclaré que cette force disposait d'un haut niveau de capacité défensive était prête à faire face à toute menace potentielle. Le commandant adjoint de l'armée de l'air iranienne, le général de brigade Mahdi Hadian, a déclaré dimanche que le haut niveau de préparation militaire du pays avait jusqu'à présent dissuadé les ennemis de l'Iran. Un cour d'appel suédoise a confirmé la peine d'emprisonnement à perpétuité prononcée contre un ancien responsable iranien, malgré les objections répétées de Téhéran, selon lesquelles le verdict était politiquement motivé. La cour d'appel de Svea a déclaré mardi dans un communiqué qu'elle confirmait le jugement dans des parties importantes qui avaient été rendues à Hamid Nouri en juillet 2022. Pour son rôle présumé dans des affaires de violation des droits humains en Iran. Il a qualifié le dossier porté contre Nouri lors de la procédure judiciaire initiale de solide et correct. Le verdict intervient 4 ans après que Nouri a été arrêté à l'aéroport de Stockholm sur la base de plaintes déposées par des groupes anti-iraniens en Suède pour son rôle présumé dans la mort de prisonniers en Iran dans les années 1980. Nouri et son équipe de défense ont nié avec véhémence les accusations portées contre lui, tandis que les autorités iraniennes ont déclaré à plusieurs reprises que cette affaire reposait sur des motivations politiques. Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza déclare que les forces du régime sioniste ont détenu 240 personnes dans l'hôpital Al-Aouda en les privant d'eau, de nourriture et de médicaments. Le régime sioniste a assiégé l'hôpital Al-Aouda Jabalia au nord de la bande de Gaza depuis le 5 décembre. D'après les propos d'Ashraf Al-Rodra, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, les 240 personnes qui étaient à l'intérieur de l'hôpital sont détenues par les forces israéliennes, dont les blessés, les patients et le personnel médical privés d'eau, de nourriture et de médicaments. L'armée israélienne a transformé l'hôpital Al-Aouda en caserne, a déploré Ashraf Al-Rodra. Nous sommes choqués par la réaction de la communauté internationale qui voit les crimes des forces d'occupation israéliennes dans le nord de Gaza et qui reste pourtant silencieuse alors que le système de santé à Gaza est mis hors service en raison de la destruction des hôpitaux. Le docteur Ashraf Al-Rodra a souligné que la situation actuelle à Gaza montrait que l'armée israélienne a insisté à poursuivre le génocide. Le directeur général du ministère de la Santé de l'autorité palestinienne a également dénoncé que les forces du régime étaient entrées par force dans l'hôpital Al-Aouda et avaient arrêté 6 membres du personnel médical, dont Ahmed Mhanna, directeur de l'hôpital. Précisément, Mohamed Salha, un des directeurs de l'hôpital, a déclaré à Reuters que les chars israéliens avaient assiégé l'hôpital et ont tiré sur tous ceux qui voulaient en sortir. Selon les derniers chiffres, le régime de Tel Aviv a tué près de 20 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Et il en a blessé plus de 52 000 autres. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens affirme que depuis le début de l'agression israélienne contre Gaza, près d'1,9 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. Même s'il reste difficile d'obtenir un chiffre précis sur le nombre total des personnes déplacées à l'intérieur du pays, près de 85% de la population est estimée être déplacée de force, a indiqué le roi dans un rapport publié lundi 18 décembre. Le rapport ajoute qu'il s'agit du plus grand déplacement forcé de Palestiniens depuis la Nakba ou catastrophe, lorsque plus de 700 000 Palestiniens ont été expulsés de leurs terres au moment de la création d'Israël en 1948. Les conditions à Gaza sont catastrophiques. Sous les bombardements incessants, des milliers de civils ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, a annoncé le roi, qui a déjà perdu un nombre record de 136 employés dans cette guerre. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a également annoncé dans un rapport publié lundi que depuis le 3 décembre, des dizaines de milliers de personnes déplacées arrivées dans le gouvernorat de Rafah continuent de faire face à des conditions d'hébergement extrêmement surpeuplées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des abris. Il a ajouté que près d'1,4 million de ces personnes déplacées sont enregistrées dans 155 installations de l'UNRWA à travers Gaza, dont plus d'1,2 million dans 98 abris de l'UNRWA, dans les gouvernorats de Khan Younes et de Rafah. Au moins 115 dirigeants mondiaux, universitaires et intellectuels ont signé une déclaration pour dénoncer l'attaque génocidaire menée depuis des mois par les forces israéliennes contre les Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée. La déclaration indique qu'Israël continue de persévérer dans ses crimes et qu'il fait fi de ne pas voir les manifestations mondiales et les appels à cesser le feu permanent qui ont eu lieu au cours des derniers mois. Dans des circonstances, cette déclaration appelle non seulement à condamner l'attaque génocidaire d'Israël, mais également à prendre des mesures efficaces pour empêcher définitivement sa répétition, a déclaré le groupe dans un communiqué commun. Nous nous réunissons en raison de l'urgence du moment, qui oblige les intellectuels du monde entier à s'opposer à l'horrible épreuve que traverse le peuple palestinien, et surtout implorer l'action de ceux qui ont le pouvoir et donc la responsabilité de le faire. Les signataires ont tenu le régime sioniste pour responsable de l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza, obligeant le système médical à échouer et en faisant également mourir de faim la population. Ils ont appelé le régime à choisir la voie de la paix, non seulement pour des raisons humanitaires, mais également dans un souci de garantir la sécurité et le respect des Palestiniens. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a annoncé la formation d'une coalition comprenant Bahreïn, le Canada, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, les Seychelles, l'Espagne et le Royaume-Uni pour patrouiller la mer Rouge suite aux attaques des forces armées yéménites contre les navires israéliens dans la mer Rouge ou d'autres navires en route vers les territoires occupés par Israël. Y réagissant, le ministre yéménite de la Défense a déclaré que si une coalition maritime se formait en mer Rouge, celle-ci deviendrait le lieu où reposeront pour toujours les membres de cette alliance. Nous sommes en possession de munitions et d'équipements militaires qui peuvent couler vos navires de guerre, sous-marins et porte-avions, a déclaré le ministre yéménite de la Défense, le général Mohammad al-Atifi. Les forces armées yéménites feront de la mer Rouge le cimetière de la coalition dirigée par les États-Unis si l'Alliance décide de prendre des mesures contre le Yémen, a-t-il ponctué. Voilà, ainsi s'achève ce programme. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique.